Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Frédéric de votre invitation. Donc effectivement aujourd'hui, donc je vais essayer de faire un peu d'histoire comparative de deux bidonvilles. Bon, le premier à Alger, Mahiedine, qui se trouve juste là, voilà. Et le deuxième à Casablanca, qui est plus connu, Carrière Centrale, Haï Mohammedi. Donc très connu à l'époque, le bidonville central de Mahiedine subira une marginalisation politique durant la guerre d'indépendance, et rien depuis n'est venu combler ce vide, cette relégation mémorielle. Par contraste, le bidonville excentré sur le plan géographique des carrières centrales a occupé et occupe toujours un rôle important dans le récit national et anticolonial, en raison notamment des manifestations nationalistes de décembre 1952 et de leur répression, sujet que j'ai traité dans un article paru dans Genèse en 2012. Et ces manifestations rachètent, entre guillemets, un peu ce bidonville qui, comme les autres bidonvilles, constitue un espace a priori peu commémorable, très difficile à patrimonialiser, je vais y revenir. En effet, tout comme pendant la période coloniale, les bidonvilles d'aujourd'hui constituent la partie la plus visible de la question sociale en Algérie et au Maroc. Resté important jusqu'il y a 5 ans, le bidonville des carrières centrales a été en bonne partie démoli ces dernières années. Le bidonville de Mahiedine a été démoli en 1963. Voilà. Et c'est désormais une cité de logements sociaux. On verra que pour les carrières centrales, la séquence historique depuis 1956 est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Interroger le pourquoi et le comment de ces processus de visibilisation et d'invisibilisation, de patrimonialisation ou non, nous plongera dans l'histoire sociale et politique de ces deux quartiers, non seulement avant les indépendances, mais également dans les décennies suivantes, avec des va-et-vient assez complexes entre passé et présent, et les multiples chronologies qui marquent à la fois l'époque coloniale et la séquence post-coloniale. Donc le présent filtre le passé, ce qui peut ou bien faciliter ou bien sérieusement limiter l'impact du militantisme de la mémoire que je vais décrire. Pour nos deux contextes, parfois, on verra aussi une différence, voire une tension entre le récit national officiel sur le passé, quand il en existe un, comme pour les carrières centrales, et les récits des habitants et militants de la mémoire dans ces quartiers. Cette intervention reprend en bonne partie l'analyse développée dans le texte en anglais, envoyé avec le programme de ce séminaire, sauf que depuis la rédaction de ce texte, j'ai pu continuer mon travail de terrain, et donc vu que la recherche est un processus, il y a des choses qui ont changé, voilà. Donc je ne vais pas donc répéter machinalement ce qu'il y a dans ce premier article. Et en fait, ce que je vais présenter, c'est le dernier chapitre de l'ouvrage. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas rédigé la plupart de l'ouvrage. Voilà, et donc je fais tout à l'envers, mais c'est une sorte de vue d'ensemble du projet. Alors, le projet en tant que tel aborde différentes thématiques, comme donc, l'histoire de la génération, enfin, des origines des bidonvilles à Alger et à Casablanca, donc exode rural, migration, problème de revenus, absence de logements sociaux avant 1945. J'aborde également l'histoire sociale de ces quartiers et leur lien avec les autres quartiers populaires, la manière dont les bidonvilles ont été représentés ou visibilisés, voilà. La montée des nationalismes d'indépendance, la construction des bidonvilles comme problème social et comme problème et danger politique par l'État colonial et les municipalités, et enfin les politiques à la fois réformistes et répressives mises en place par l'État colonial en raison de ces représentations. J'ai également une approche par l'événement, donc décembre 52 pour les carrières centrales, et puis les manifestations nationalistes à Alger les 10 et 11 décembre 60 pour Mahiedine. Donc l'événement, c'est une manière de radiographier la ville à un moment donné. Voilà ce qu'on avait essayé de faire dans l'ouvrage cité par Marc sur Paris 61. Les bidonvilles montrent bien comment le colonialisme et l'anticolonialisme s'inscrivent dans l'espace urbain. Et on a affaire forcément avec Casablanca et Alger, à deux villes vitrines, à la fois du colonialisme et de l'anticolonialisme. En effet, étant donné la forte ségrégation socio-ethnique qui y règne, les bidonvilles ont une sorte de double statut. Ils peuvent être à la fois des lieux de résistance, pas forcément, pas toujours, mais ils peuvent l'être, et en même temps les cibles d'une grande répression, bien loin des yeux européens, les seuls témoins jugés crédibles par l'État. Les bidonvilles de Nanterre, vers la fin de la guerre d'indépendance algérienne, rentrent un petit peu dans cette typologie-là, le double statut. Comme on le verra, étudier ces villes et ces époques à travers les bidonvilles apporte un changement d'échelle, grâce auquel le micro-local vient questionner le national. Étudier les bidonvilles apporte également un changement de perspective sur le plan social, forcément. En effet, écrire une telle histoire, surtout pour Alger, nous aide à sortir d'une sur-focalisation sur certains quartiers, comme la Casbah. Pour les deux villes, mon approche cherche à souligner le rôle important joué par les couches les plus pauvres de la population urbaine dans le processus de décolonisation, des habitants souvent présentés comme des marginalisés, non intégrés dans la ville et sujets à une forte anomie sociale. C'est l'image qu'on rencontre dans les travaux de Bourdieu et de Sayad. Je tente aussi de faire sortir l'histoire sociale de ces quartiers de sa subordination à l'histoire politique. Mais mon analyse aujourd'hui va me ramener à cette difficulté, à cette tension sans doute entre histoire sociale et histoire politique. Il y a tension mais aussi complémentarité entre ces deux histoires. En tout cas, il y a influence réciproque. Faire l'histoire de la mémoire de ces quartiers nous aidera, je l'espère, à contourner, ne serait-ce qu'en partie, ce problème, tout comme la question de la mémoire sociale nous aide à restituer un peu la capacité d'agir des acteurs. Pour l'historien, faire l'histoire de certains groupes, notamment les « dominés », entre guillemets, pose des problèmes du degré assez élevé de la récupérabilité ou non de leur passé. Pour dire les choses autrement, le travail de l'historien sera encore plus incomplet que d'habitude. Et il me faut assumer cette part d'inconnu, notamment pour certains aspects de l'entre-deux-guerres à Mahiedine, donc le bidonville à Alger. Les acteurs ne sont plus là, il y a très peu de traces écrites. Je pars du principe que la compréhension de la situation coloniale, comme nous l'a décrit Ballandier, nécessite une prise en compte des multiples logiques de l'ensemble des acteurs, à la fois du côté de la société colonisée et de celui des colonisateurs. En conséquence, faire l'histoire de la France coloniale et étudier l'histoire de l'Algérie colonisée sont des approches complémentaires, de même, bien évidemment, lorsqu'il s'agit du Maroc. Par exemple, il faut savoir analyser non seulement la manière dont les bidonvilles sont représentés, sinon stigmatisés, dans la presse et l'opinion publique européenne, mais également comment sont perçus les habitants des bidonvilles par les autres Algérois et Casablancais. Comme le rappelle Sayad, ces représentations imposées de l'extérieur sur les bidonvillerois auront une incidence sur la présentation de soi que mobilisent ces derniers et des enjeux mémoriels sur lesquels on reviendra. Bref, le rapport à l'État colonial et aux Européens est loin d'épuiser les relations de pouvoir dans lesquelles sont pris les habitants des bidonvilles. Ajoutons que dans les deux villes, avant la fin des années 40, ce n'est pas tant le rapport à l'État colonial qui compte le plus dans le domaine de l'habitat, car l'État n'intervient pratiquement pas, mais c'est bien plutôt le rapport à la municipalité. Sur le plan méthodologique et du choix des sources, j'ai adopté une approche qui tente d'éclaircir les multiples points de vue des acteurs et actrices impliqués dans cette histoire. Bref, une approche d'en bas et d'en haut en même temps. Et donc, ce que j'essaie de faire dans l'ouvrage, c'est de tester cette double approche et les tensions inévitables qu'il peut y avoir dans cette approche. Donc, par exemple, pour Alger, je mène actuellement une étude de cas sur l'ancien bidonville de Mahiedine à travers des entretiens semi-directifs d'histoire orale avec des anciens habitants et des anciens militants nationalistes et communistes. Je tente de comprendre la vie quotidienne en même temps que les événements les plus marquants dans ce quartier pendant les années 40 et 50. Ce ne sont pas toujours ceux auxquels l'on pense immédiatement. Et ensuite, je fais un travail d'archives à Aix, à Vincennes, à la wilaya d'Alger, sur ces faits ainsi relatés. Mes propres questions d'entretien s'inspirent, bien entendu, des lectures déjà faites de sources diverses, principalement coloniales. Le travail pour les carrières centrales se fait de même manière, mais dans ce quartier, le réseau associatif est plus dense. Il y a un historien qui a déjà produit une étude du bidonville, ce qui m'a aidé à entrer en contact avec beaucoup d'anciens habitants. Et donc, les contextes de recherche sont en fait assez différents. Dans les deux contextes, pourtant, il y a partage de l'information, tout d'abord entre chercheurs, ensuite entre le chercheur et des associations, ensuite entre le chercheur et les anciens habitants, notamment à travers les images photographiques prises à l'époque, que ce soit des images d'archives auxquelles j'ai eu accès, ou bien les archives personnelles, familiales, qu'on me laisse photographier. Par exemple, là nous avons le photomontage d'une partie du bidonville de Machadine à Alger, composé de différentes images prises par la mairie d'Alger en 1953, juste avant la première vague des résorptions de bidonville à Alger. Et donc j'ai pu montrer ça aux anciens habitants du quartier qui ont pu repérer leur baraque. Et vous voyez à quel point le bidonville se situe donc juste littéralement en face d'autres quartiers. Ça, c'est Belcourt, le début de Belcourt. J'ai d'autres images plus tard, mais voilà ce que je peux faire avec des gens que je rencontre pour la première fois. Je peux leur montrer justement à quoi ressemblait le bidonville en 1953. Voilà. Je vais y revenir. Cette manière de procéder n'abolit bien évidemment pas les rapports de pouvoir qui informent ces différentes relations, ni les attentes réciproques des uns des autres. Par exemple, certains contacts qui se mobilisent pour promouvoir la mémoire de leur quartier voudraient que je leur cherche des informations, dans les archives coloniales notamment, sur un aspect très précis du quartier, information qui peut constituer un capital symbolique, éventuellement politique, important dans les batailles de mémoire au niveau local ou national. En même temps qu'une histoire sociale et politique, je fais l'histoire de la mémoire de ces lieux. Comme le dit Henri Rousseau, donc le terme « histoire de la mémoire », je cite, « désigne la manière dont le passé se décline à une époque donnée, des modalités par lesquelles groupe et individu se l'approprient, le commémore, l'insère dans une vision plus large du présent et de l'avenir. » Je pars du principe que la manière dont on parle du passé, ou bien la manière dont on n'en parle pas ou peu, nous renseigne très utilement sur comment on envisage le présent et l'avenir. Pourquoi le silence social? Pourquoi le silence politique? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Voilà le type de questions qu'on peut se poser. Je pars de l'approche méthodologique adoptée dans l'ouvrage Paris 61. Donc, faire l'histoire de la mémoire nécessite une bonne connaissance du passé pour mieux comprendre ce processus par lequel les acteurs sélectionnent certains éléments du passé, pourquoi ils gardent le silence par rapport à d'autres, la violence subie, la peur, la stigmatisation et son internalisation éventuelle, le contexte institutionnel peuvent jouer énormément sur ce rapport au passé. Bref, l'historien doit connaître toutes les séquences historiques, ainsi que l'actualité politique et institutionnelle dans laquelle le passé surgit ou ne surgit pas, et les lieux physiques, les événements et les personnages qui sont évoqués dans ces récits. Cependant, dans les discussions et mobilisations autour des luttes pour l'indépendance, on a affaire très souvent aux usages politiques du passé. Donc, l'utilisation du passé à des fins politiques. L'enjeu pour le chercheur consiste à saisir et à lire ces différentes échelles entre le local et le national. Pour beaucoup de militants de la mémoire à Machadine, l'idée c'est de revaloriser l'image de leur quartier, qui souffre d'une relégation sur plusieurs plans. Je vais y revenir. Il s'agit souvent d'hommes entre 55 et 70 ans qui ont grandi dans le quartier, sont souvent nés dans les baraques, dont les parents sont venus à Alger dans les années 30-40. Ils ont un capital culturel acquis grâce à un certain parcours scolaire en arabe et en français. Il s'agit donc de familles qui sont présentes sur le quartier depuis longtemps, ce qui leur donne certains avantages. Ils s'engagent avec ou sans rattachement associatif à faire de l'engagement civique pour assurer la mise en valeur de leur quartier et en porter la mémoire à travers une fonction de représentation qui resterait à analyser dans plus de détails. Ici, j'entends représentation dans son double sens de parler pour, mais aussi parler après l'événement. Comme souvent, l'émergence de cette nouvelle génération qui travaille en coopération avec des habitants plus jeunes aura été importante pour que des voix locales émergent pour parler de leur quartier, ou bien pour nuancer la version étatique sur le passé du quartier, dans le cas des carrières centrales. De telles actions produisent des sources très précieuses pour l'historien, mais il faut rester attentif quant au contexte de leur production. Signalons également que puisque seulement quelques aspects du passé du quartier sont mobilisables dans le champ des commémorations et donc de la visibilisation, voire de l'instrumentalisation, notamment les divers faits d'armes de militants nationalistes FLN et surtout des martyrs, d'autres aspects de la guerre peuvent passer à la trappe. La sélectivité mémorielle joue un rôle fondamental, apportant une surfocalisation sur certaines dimensions du passé, en minimisant d'autres. D'où mon étude d'histoire sociale plus banale, entre guillemets, et de la mémoire sociale de la vie quotidienne, pour essayer de contourner certains de ces problèmes, même si je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui de la mémoire sociale de ces deux quartiers. Et donc je m'intéresse donc aux tensions entre passé et présent, articulation entre passé et présent, mémoire et histoire, et le local, le micro-local et le national. Voilà, donc c'est à peu près ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, en commençant par Alger. Voilà. Alors, je ne vais pas retracer toute l'histoire de la formation des bidonvilles d'Alger. Voilà. Nous avons affaire, bien évidemment, à une très profonde déstructuration de la société coloniale en Algérie, voilà, qui incite à l'exode. Il y a eu sans doute beaucoup plus de migrants internes en Algérie que de migrants vers la France métropolitaine. Il ne faudrait pas l'oublier. Voilà. Hein, c'est important. Les premiers bidonvilles s'installent dès les années 1910 dans les parcelles de terrain libre dans cette ville aux multiples ravins falaises, donc à proximité de cimetières, ou dans le cas de Mahyadine, donc autour d'une villa ottomane. Et donc la famille qui possède ces deux villas, laisse installer donc les premières baraques autour de l'année 1910. Mais ce passé-là reste assez incertain, enfin me reste assez incertain pour l'instant. Tout en haut du bidonville, il y a une zawiya qui appartient à la Rahmania, basée en Kabylie. Cette zawiya a été construite en partie en raison du bannissement à Alger d'une famille qui avait participé à la dernière grande révolte contre les Français, celle de Mokrani en 1871. Donc il y a ça également. Donc il y a la villa ottomane plus la zawiya, c'est-à-dire combien les couches d'histoire du quartier se superposent et fournissent une sorte de résumé de pans entiers de l'histoire de l'Algérie. La proximité des dépôts d'activité économique du centre, le port, les halles centrales et les usines de banlieue aussi constituent également un critère important quant au choix d'installation. Hein, donc vous voyez que, en fait, c'est un kilomètre, même pas, entre le bidonville et le port d'Alger. Voilà, les halles centrales sont pas loin, juste à côté. Voilà. Donc, habiter à Mahyadine figurait dans les stratégies résidentielles des couches pauvres de la ville. C'était peut-être le bidonville le moins pauvre d'Algérie, hein, dans les années 40 et 50. Donc, entouré hein, de quartiers plutôt européens, surtout de ce côté-là. Le recensement de 41 estime la population à quelques 1800 habitants. C'est forcément une sous-estimation. Mm-hmm. Oui. Voilà. Il y a des projets de résorption qui n'aboutissent pas, comme d'habitude. Il y a la guerre, bien entendu. Voilà. On laisse installer encore plus de baraques, même s'il y a interdiction, parce qu'on va tolérer. n'y a pas de politique de relogement, il n'y a pas de politique de logements sociaux pour les Algériens musulmans, donc on laisse installer des bidonvilles, voilà, pour éviter l'explosion, entre guillemets. Et donc la population va grimper jusqu'à 12 000, à peu près, en 54, voilà. Voilà, donc ça devient donc un grand bidonville, le plus grand de toute l'Algérie, sans doute, en 54. Après, ça va changer, hein, c'est une partie... là, je vais arriver, mais dans un premier temps, c'est le bidonville le plus important en Algérie. Et chaque bidonville, comme on le sait, est différent, avec son profil démographique, sociologique et économique spécifique. Donc Mahiadine, c'est le bidonville des dockers, même si les dockers constituent 15-20% en fait de la population active sur le bidonville. C'est le bidonville des dockers. Voilà. Donc la répartition régionale donc, des habitants est assez marquée au départ, mais au fil des ans, ça va se diluer. Voilà. Donc il y a de plus en plus de mélange entre les différents îlots du bidonville. Voilà. Pelletier, dans son étude intitulée « Alger 55, essai d'une géographie sociale », déclare que Mahiadine, je cite, est tellement grand qu'il est à lui seul un résumé des aspects des différents bidonvilles d'Alger. Fin citation. Pour l'un des anciens habitants, très fier de son quartier, Mahiadine, c'était, je cite, la capitale des baraques. Voilà. J'aime bien cette idée, la capitale des baraques. Capitale et Bangkok, voilà. Donc il n'y a pas d'initiative de relogement donc, avant Chevalier. Et donc, le MTLD et le PCA, le Parti communiste algérien, commencent à pointer donc, l'existence de ce bidonville. Donc, le bidonville, donc, c'est une manière de cristalliser tous les effets néfastes du colonialisme. Forcément, l'expropriation, l'immigration vers les villes, l'absence de relogement, les conditions matérielles extrêmement dures, voilà, donc les communistes et les communistes plus que les nationalistes, on parle beaucoup au début des années 50, et avec l'arrivée de Chevalier, on verra donc, le début des opérations de relogement, mais pas pour Mahiadine. Voilà. Avant d'y arriver, signalons qu'il y a eu une étude qui est assez connue sur le bidonville de Mahiadine par l'architecte réformiste, libéral, camusien, Roland Simounet, qui va donc préparer une grille qui sera exposée lors d'une conférence, pardon, d'un colloque d'architecture à Aix-en-Provence en 1953. Voilà, et c'est extrêmement bien illustré. Et donc, ces archives existent à la Fondation Le Corbusier, et j'ai pu avoir certains de ces images. Juste pour vous donner une idée de ce que c'était le bidonville à cette époque-là. Voilà. Et donc l'idée pour Simounet, c'est que les habitants... Donc ce qui est intéressant, c'est que pour Simounet, les habitants avaient su s'adapter à la vie urbaine. Donc ils avaient effectué une sorte de compromis entre la tradition et la modernité de la ville, et que lors des projets de relogement, il faudrait tenir compte justement des capacités d'adaptation et aux formes culturelles traditionnelles, entre guillemets, hein, pour ne pas produire des appartements à la française, entre guillemets. Voilà. Le problème, c'est que Simonet, quand il a travaillé, ses logements, notamment de recassement, sont très mal vus par beaucoup d'habitants. Voilà, pour diverses raisons, je n'ai pas le temps de développer, mais me semble-t-il, il n'a pas forcément mis en pratique ce qu'il avait préconisé. Mais voilà, et en plus, il a fait tout un. Voilà, pour bien montrer donc ce mur qui a été inséré, qui n'existait pas. Hein, à l'époque, mais pour bien montrer la division entre le monde de l'école et le monde des baraques. Voilà, des baraques qui ont été détruites, mais elles n'étaient pas nombreuses. Hein, donc il a beaucoup insisté là-dessus, mais en fait, on a très peu détruit des baraques. Et on voit, voilà, qui ressemble un petit peu à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'image sur la photo. Voilà. Voilà, donc c'est ça le... une partie seulement du bidonville, une autre partie qu'on ne voit pas très bien en fait dans cette photo-là, voilà, ce photomontage plutôt. Et donc cette grille Simonet a été montrée lors d'une exposition à Berlin en 2008, voilà. Mais les habitants du quartier n'étaient pas au courant de cette exposition, qui a ensuite tourné à Casablanca. Voilà, et donc à Casablanca, Marchiadine est connu. Voilà. Et la villa, enfin les deux villas Marchiadine ont servi comme siège régional des renseignements généraux à partir de 50-51. Voilà, donc les locaux ont été loués par les renseignements généraux, donc il y a eu des faits de torture sur des militants nationalistes dans le village, donc bien avant le début de la guerre d'indépendance. Hein. Voilà, donc comme lieu de mémoire de torture, on aurait pu faire quelque chose sur le plan de la villa, mais la villa reste en travaux, et son accès est assez difficile, et la réputation du quartier est assez mauvaise, donc je pense que ça ne va pas se faire. Et justement, Marchiadine ne profite pas de ces premiers relogements très en vue à l'époque du maire réformiste Chevalier, donc 53-58. Pour des simples questions de multipropriété des terrains, notamment, parce que c'est quand même le bidonville le plus en vue, hein, mais on ne peut pas le résorber. Hein, donc c'est ça le problème. Et donc, une toute petite première tranche de relogement aura lieu en 58, mais c'est très peu, donc c'est 61 en fait, hein, quand on livre les premiers bâtiments. En 62, on abandonne la deuxième tranche pour des raisons sécuritaires, et ce n'est que sous Ben Bella en fait que la dernière partie du bidonville sera résorbée. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire très rapide du quartier bidonville de Marchiadine, sur lequel je vais revenir par la suite. Alors, comment expliquer cette marginalisation de Marchiadine, qui était au départ un quartier assez militant MTLD, voilà. Mais pendant la guerre d'indépendance, le quartier ne figure pas beaucoup, hein, il faut le dire. Comment essayer de comprendre ça? Tout d'abord, la présence de la section administrative urbaine, donc l'armée qui fait des réformes sur place, qui cherche des renseignements également, voilà, on arrive à faire boucler ce quartier qui est assez enclavé, voilà, et donc qui peut contrôler ce quartier plus que d'autres quartiers. Enfin, ça c'est une sorte d'hypothèse de travail. Certains habitants commencent à militer dans des cellules FLN dans d'autres quartiers. D'autres militent en tant qu'agents de liaison et font des allers-retours entre le bidonville et leur ville d'origine. Voilà. Même les activités FLN sont réduites dans le quartier. En même temps, la SAU réalise un coup médiatique important en créant en 58 un comité de salut public à Marchiadine, en obligeant certains habitants à aller manifester au forum du gouvernement, en sélectionnant des femmes qui vont participer aux cérémonies de dévoilement. Donc en fait, quand il y a visibilisation, ce n'est pas une visibilisation pour des faits de résistance. Voilà. Il y a pourtant un personnage qui revient souvent dans mes entretiens, El Hafi, comme on l'appelait, hein, qui gérait le café dortoir le plus important de Marchiadine. Nommé responsable des chefs d'îlots par la SAU, il profitait de son pouvoir pour jouer le double jeu et héberger des militants FLN de passage à Alger en provenance ou bien en direction du maquis. En même temps, il pouvait faire preuve de violence physique sur ses clients devant les officiers SAU. À l'époque, seulement une poignée des habitants étaient bien évidemment informés de ses appartenances FLN. C'était un homme détesté pour son travail avec les Français, mais après l'indépendance, il a pu rester dans le quartier, signe qu'il ne s'était pas trop compromis. C'est ça en fait, qui reste dans le quartier après l'indépendance, c'est ça. Hein. Mais on comprendra que c'est pourtant un personnage difficilement visibilisable sur le plan mémoriel, Voilà. Pour l'historien, Al-Hafi représente les logiques de survie en temps de guerre, tout comme le phénomène assez courant des doubles cotisations FLN MNA, ce qui nous amène à un autre facteur important, donc le conflit MNA-FLN dans le quartier. Voilà, c'est très délicat, c'est toujours très délicat. Voilà, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le FLN n'a pas pu, n'a pas su convertir, entre guillemets, ses messalistes en 55. Voilà, c'est ça la question. Je n'ai pas de réponse très précise pour l'instant. L'hypothèse, c'est bien évidemment les liens éventuels entre les habitants du bidonville et les régions, les liens forts, et les régions d'origine qui étaient souvent messalistes. Enfin, ça c'est en partie, hein, ça c'est une hypothèse travail. Mais en tout cas, même des anciens militants FLN disent que les messalistes étaient majoritaires sur le quartier. Voilà. Voilà. Donc c'est une période assez trouble, forcément. Voilà. Et de ce fait, aujourd'hui, évoquer le quartier parmi de certains anciens militants FLN issus d'autres quartiers, hein, est extrêmement difficile. Voilà. Il y a silence, voilà. Les manifestations de décembre 60, rapidement, voilà, donc une partie des habitants ne peut pas quitter le bidonville, voilà, qui est encerclé, voilà, par des militaires. Une partie peut partir, mais en fait, le rôle des habitants de Mahyadine lors de ces événements ne représente pas grand-chose à côté des autres quartiers qui en revendiquent la paternité. Voilà. Et donc, décembre 60, qui, comme le dit le GPRA, signale l'émergence des « masses urbaines », entre guillemets, en fait, ne profite pas à Mahyadine. Voilà. À ce moment précis, en fait, un tiers des habitants étaient relogés ailleurs en attendant le relogement dans la nouvelle cité HLM, qui va s'ouvrir en 61. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le plan du nombre des habitants, Mahyadine est vite dépassé par des bidonvilles de la banlieue algéroise en fonction de l'exode pour fuir la guerre d'indépendance. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à la fin de la guerre, Mahyadine n'est plus le plus important des bidonvilles d'Alger sur le plan quantitatif. Voilà. Ceci dit, il y a bien entendu des événements qu'on me cite sur le plan local dont il faudrait parler. Tout d'abord, une sorte de rafle qui a eu lieu pendant la grève des 8 jours, donc au moment de la bataille d'Alger. Voilà, donc tous les adolescents, tous les hommes du quartier ont été raflés par des parachutistes, emmenés dans un complexe sportif à proximité. Donc ils ont dû défiler devant des indicateurs cagoulés. Donc certains habitants vont par la suite disparaître. Voilà, donc presque tous les foyers ont été touchés par cette rafle. Voilà, c'est ça qui revient, hein, dans les entretiens. De même, la question des rafles des tirailleurs sénégalais, parce que les policiers refusaient très souvent d'aller dans les baraques. Hein, donc on envoyait en fait les tirailleurs sénégalais dans les baraques. Voilà. La peur de l'OAS... Voilà, donc des sentiments de vulnérabilité devant ces attentats, mais les tirs depuis les immeubles en bas du bidonville. Donc quand les enfants sortaient du bidonville, parfois ils se faisaient tirer dessus. Voilà, depuis le quatrième, le cinquième étage de l'immeuble, hein, qui était autour de carrefour, hein, juste en bas du bidonville. Voilà, donc il y a ce type de souvenirs qui revient assez souvent. Voilà. Il y a eu pas mal d'habitants blessés dans l'attaque qui est assez connue, hein, de l'OAS contre le port d'Alger le 2 mai 62. Hein. Il y a une bonne partie des blessés, en fait, a été soignée dans le quartier, notamment en raison d'un réseau de scouts, réseau souterrain, voilà, qui a pu agir à ce moment-là. En même temps, il y a beaucoup de... On évoque souvent la solidarité. Voilà. Je vais revenir. Donc la solidarité face à tous ces problèmes, donc sur le plan politique, mais aussi face aux problèmes de la vie de tous les jours, donc les questions matérielles. Voilà. On exprime aussi une sorte de déception par rapport aux nouvelles générations, qu'on juge trop individualistes, ou une déception devant les leaders politiques algériens. Voilà. Donc on revisite aussi le passé en fonction du présent. Voilà. Signalons d'autres facteurs depuis l'indépendance qui ont pu jouer sur la persistance de la marginalisation relative du quartier. Voilà. Donc Machiadine, comme quartier, quand on en parle, on garde une mauvaise image, drogue, délinquance, terrorisme. Pendant la décennie noire, certains de ses habitants participaient à des assassinats de membres des forces de l'ordre, par exemple. Au niveau national, il va de soi que parler des bidonvilles ne pourrait que soulever des questions gênantes pour le pouvoir actuel, les bidonvilles représentant un sujet politique et social pour le moins délicat. Voilà. Donc l'héritage politique du quartier fait qu'il n'y a pas de prise en charge officielle, locale, ni nationale de cette mémoire. Voilà. Et donc, quand on va se mobiliser pour célébrer la mémoire du quartier, c'est une sorte de contre-mémoire qu'on va monter. Voilà. Donc, la mémoire locale qui est forcément en tension avec le récit national d'un peuple uni contre l'État colonial, forcément en raison des conflits MNA, FLN, enfin, surtout. Étant donné que beaucoup des anciens habitants du bidonville ont été relogés sur site, des projets d'histoire et de mémoire locale sont bien possibles, car il existe, élément essentiel, des individus avec suffisamment de ressources symboliques, de capital culturel, si on veut, pour dynamiser ce processus d'anamnèse. Certains ont des relations au siège de la radio-télévision, qui est à 500 mètres. Il y a des enfants du quartier qui ont pu bénéficier d'une certaine mobilité sociale, qui reviennent rendre visite aux parents le week-end, par exemple. Presque chaque ramadan, une journée dans le quartier est réservée aux anciens habitants qui viennent de différentes régions d'Algérie et d'Alger, aussi pour rencontrer leurs amis. Il y a désormais un site internet, comme on m'a expliqué, pour ceux qui habitent à l'étranger, et sur lequel certains documents et images que j'ai trouvés lors de mes recherches seront mis en ligne. Ce site est géré depuis Montréal. Voilà, c'est ça le qui a dit. Voilà, donc une sorte de diaspora. Voilà. Je peux vous indiquer bien évidemment l'adresse du site. Hein. Voilà. Donc pour certains de ces entrepreneurs de mémoire, ce n'est pas un terme que j'utilise très souvent, mais une fois, ça va. Il s'agit de forger des liens entre les générations, de promouvoir une meilleure image du quartier, voire de contester le rôle des mosquées. Hein ? On s'adresse donc à la population civile en même temps qu'aux autorités. Hein ? Donc c'est important pour ces militants de la mémoire de garder une certaine autonomie. Voilà. Mais forcément, ces initiatives sont peu susceptibles d'être prises en charge au niveau officiel, à moins qu'elles ne parlent le langage de la mise en discours officielle sur le passé. Hein ? Nous avons vu que pour Machiadine, ça c'est très difficile. Difficile mais pas impossible. Comme l'atteste l'exemple suivant, les militants de la mémoire de Machiadine tentent en ce moment de s'adresser non seulement à la population locale, mais également aux enjeux autour des commémorations de la guerre d'indépendance, hein, sur les plans local et national, parce que le seul héros, entre guillemets, de la guerre de libération, dont le souvenir est susceptible de mobilisation, c'est bien Benhamdi Badesh, condamné et ensuite guillotiné en juillet 57 pour l'assassinat à Alger, fin décembre 56, d'Amédée Froger, qui était maire de Boufarik et président de la Fédération des maires d'Algérie. De très nombreux Algériens sont tués par des Européens suite aux obsèques de Froger. Hein. Natif de la commune de Waled Slimane, dans la région de Boussarda, tout comme une minorité importante des habitants de Machiadine, travaillant comme journalier, vivant comme célibataire et une figure assez marginale sur place, semble-t-il, Les célibataires du bidonville avaient mauvaise réputation. Badèche sera défendu lors de son appel par Gisèle Halimi. Son arrestation a été effectuée à Mafieddine en février 57, en pleine bataille d'Alger. Enterré dans le carré des martyrs du cimetière El Alia, en banlieue algéroise, son tombeau était en ruine jusqu'en 2013, quand l'un des habitants pro-FLN de la cité Mafieddine, très choqué par cet état des choses, assurera, avec d'autres habitants du bidonville, sa remise en l'état, ainsi que la médiatisation de cette figure. Pourtant, malgré la présence du tombeau au carré des martyrs, le rôle de Badèche reste complexe. Certains disent que ce n'était pas lui l'assassin de Froger, tout en revendiquant l'assassinat pour le FLN. D'autres évoquent la peur des représailles comme une raison pour avoir gardé le secret le nom de l'assassin. Par contre, d'anciens MNA, ainsi que la thèse récente de Najib Sidi Moussa, affirment que c'était bien un attentat MNA, c'était un réseau autonome en fait du MNA, selon voilà, Najib Sidi Moussa et d'autres. N'oublions pas que décembre 56, c'était un moment un peu trouble, la FLN algérois a gagné la bataille sur la MNA sans jamais pouvoir l'écraser totalement, et la MNA était lui-même divisée. Pourtant, de tels assassinats ne rentraient pas dans la tactique du MNA. Je ne vais pas résoudre cette question aujourd'hui, ce problème, sachant que des anciens militants MNA sont venus disputer l'appartenance politique véritable de Badèche lors d'une petite cérémonie autour du tombeau après les travaux de réparation en juillet de l'année dernière. Dans ce contexte, j'ai pu constater pendant l'été 2014 un petit changement dans le discours des acteurs locaux. Toujours représenté comme victime d'un oubli qu'il faut réparer, Badèche n'est plus le militant FLN, mais désormais le martyr universel, le patriote, mort pour son pays en tant que shahid. On va du discours nationaliste au discours patriotique, seule issue possible pour contourner la question difficile, sinon impossible à trancher, de l'appartenance politique véritable de Badèche, et pour amener, sinon en consensus, du moins un modus vivendi entre anciens du FLN et du MNA. Par exemple, dans une tribune anonyme, enfin je connais l'auteur, mais une tribune anonyme publiée le 5 juillet 2014 dans le journal El Watan, l'auteur, en fait le principal défenseur de Badèche, sa famille habite le quartier depuis 1942, ne fait aucune illusion au clivage FLN-MNA. Le nationalisme de Badèche n'est pas porteur de sens, n'a aucune valeur symbolique. Quelques jours avant, l'auteur de ce texte avait adressé une lettre au maire de l'arrondissement de Sidi Mohamed, lui demandant une cérémonie officielle d'hommage à Badèche, ce qui aura lieu cette année peut-être. Le texte dans El Watan, qui portait pour la première fois cette question sur la scène nationale et non seulement algéroise, insiste sur l'importance de l'assassinat de Froger dans la chronologie de la guerre, notamment sur le plan du clivage grandissant entre Européens pro-Algérie française et les partisans de l'indépendance. Victime de l'oubli, je cite, victime de l'oubli, fin citation, Badèche y est décrit comme fils du quartier, Waled al-Houma. La mémoire de Badèche aurait été sauvée grâce à la mobilisation, je cite, de certains citoyens de la cité Mafieddine qui, même s'ils n'ont pas vécu cette époque, ont milité et œuvré inlassablement, fin citation, pour qu'il ne tombe pas définitivement dans l'oubli. Ce texte insiste aussi sur le sacrifice de Badèche pour comparer son comportement à celui jugé peu digne des leaders politiques algériens d'aujourd'hui. Selon ce texte, la transmission des valeurs de ce sacrifice, ainsi que le passé plus généralement, n'a pu être assurée envers la jeunesse algérienne d'aujourd'hui. À la fin du texte, le rôle des bidonvilles et de leurs habitants dans la lutte pour l'indépendance est néanmoins évoqué. On parle de, je cite, « cette fabuleuse fraternelle et généreuse solidarité qui leur permit de transcender leurs clivages régionaux, eux, les damnés de la terre, venus de tous les coins du pays, trouvant refuge pour survivre à la misère dans les gourbis des bidonvilles de la capitale, à l'instar de la cité Mafieddine, une réserve d'indigènes, ghetto ou township pour sous-humains, enclavés dans la prospère et festive ville européenne. Ils en firent des creusets de la nation algérienne et des foyers du patriotisme. Voilà, donc l'idée du bidonville en tant que creuset de la nation, c'est quelque chose qu'on voit également au Maroc. C'est une thématique très importante chez des acteurs politisés ou pas. Hein. Donc le bidonville comme creuset du national, c'est important. Impossible, bien évidemment, de mesurer sur le plan empirique. Hein, c'est ça le problème, mais c'est très stimulant. Hein. Mais là, forcément, ça repose les questions du rapport entre donc histoire sociale et histoire politique. Forcément, c'est ça. Et à la fin du texte, dans El Watan, cette lutte est ensuite universalisée, je dirais encore plus. Donc, cette lutte des bidonvillois, entre guillemets, c'est le combat des opprimés, hein, peu importe le contexte. Hein, donc, ce combat est représentatif du combat des opprimés. Voilà. Donc, voilà un cas concret. Donc, on essaie de revaloriser l'image du quartier de Mahiedine. Et je vais passer maintenant, plus rapidement, au cas de Casablanca, et notamment au quartier des Carrières Centrales.